Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Romain Ouzoui.
C'est votre rendez-vous chaque matin avec l'antenne de RFI. Nous vous attendons au standard. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Pegasus, ce logiciel espion qui a infecté les téléphones de dizaines de milliers de personnes pour le compte d'au moins une dizaine de pays, notamment des États africains qui sont cités pour avoir participé à cet espionnage massif. On peut citer le Rwanda, le Togo, l'Ouganda, le Maroc. On a appris que le numéro du président français Emmanuel Macron figurait parmi les listes potentielles depuis le Maroc. Est-ce que ça vous inquiète? Jusqu'où l'espionnage peut-il aller selon vous? Appelez-nous 33 9 693 693 70. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Je ne manquerai pas de relayer plusieurs de vos messages à l'antenne. Ce sera donc dans la seconde partie d'appel sur l'actualité. Pour le moment, c'est votre rendez-vous avec la rédaction. Vous posez, comme chaque matin, des questions sur les sujets qui vous ont interpellé dans l'actualité. Et pour commencer, nous accueillons Moussa. Bonjour Moussa.
Bonjour Romain et bonjour à tous les fidèles héritiers de la Radio France Internationale et permettez-moi de saisir cette occasion de souhaiter bon fête de l'Eid al-Adha al-Mubarak à tous les musulmans du monde entier et ceux du Tchad en particulier.
Eh bien, le message est bien reçu, Moussa. Vous êtes à N'Djamena. Nous vous écoutons, Moussa.
Oui, effectivement. J'ai appris sur l'antenne des RFI que le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a échappé à une tentative d'assassinat. À ce sujet, j'aimerais savoir comment les assaillants sont-ils parvenus à pénétrer avec des couteaux dans la mosquée malgré les mesures de sécurité.
Alors, vous évoquez effectivement un événement qui a secoué Bamako, c'était mardi. Le président de la transition malienne, effectivement, victime d'une tentative d'assassinat au couteau alors qu'il célébrait la fête de la Tabaski dans la grande mosquée de Bamako. Pour vous répondre, Moussa, on est en ligne avec Serge Daniel, le correspondant de RFI dans la capitale malienne. Serge, est-ce qu'on sait comment l'assaillant est parvenu ainsi à s'introduire dans la mosquée, donc avec un couteau, pour ainsi tenter d'attaquer Assimi Goïta?
Alors, les premiers éléments de l'enquête tolèrent la thèse selon laquelle l'agresseur est arrivé dans l'enceinte de la grande mosquée de Bamako comme un fidèle musulman. Donc, venu prier comme d'autres jours de Tabaski, il serait arrivé parmi les premiers sur les lieux, donc plus de facilité de pénétrer dans la mosquée. Ensuite, il aurait dans un premier temps bien caché son couteau. Il est passé entre les mailles des services de la protection rapide proche du président Assimi Goïta. Il y a donc, disons-le, eu une défaillance dans le dispositif sécuritaire de la garde rapprochée. Un expert ajoute d'ailleurs que c'est vrai, le risque zéro n'existe pas, mais dans ce cas, on a probablement, c'est une citation, manqué de vigilance parce que le jour de fête, on s'est dit, c'est entre fidèles. Bon, certes, il y avait à l'intérieur de la mosquée un dispositif sécuritaire, mais qui a manqué, il faut le répéter, un peu de vigilance.
Moussa, vous avez une seconde question sur ce sujet à poser à Serge Daniel.
Oui, effectivement. Est-ce qu'on connaît les motivations de ces individus et qu'est-ce qu'ils?
Alors, hier, Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le sujet. C'est vrai que rapidement après les faits, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. On a parlé notamment d'un homme sous l'emprise de la drogue. Qu'est-ce qu'on en sait ce matin, Serge?
Alors, ce qui se dit, c'est qu'on ne connaît pas les réelles motivations des agresseurs de l'agresseur. L'enquête est en cours, vous l'avez dit. L'homme qui a voulu agresser le président au couteau est désormais en état de parler. On exclut pour le moment la piste djihadiste, d'après une source proche de l'enquête. Alors, y a-t-il des complices? On devrait assez rapidement le savoir, mais lorsqu'on regarde très bien la vidéo de l'attaque, aucun doute, c'était le coup du président qui était visé, comme si on voulait l'éliminer physiquement. Et là, quand même, sa garde a réagi promptement, avec promptitude. Mettant la peine, qu'est-ce qui risque? La tentative de crime est considérée comme un crime. Ici, vous l'avez dit, un procureur a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, et même pour tentative d'assassinat. S'ils sont reconnus coupables, c'est jusqu'à 20 ans de réclusion, et même plus.
Voilà, donc une peine de 20 ans de réclusion pour cet assaillant présumé qui donc a attaqué le président de la transition malienne. Moussa, est-ce que Serge Daniel a répondu à vos questions?
Oui, effectivement, c'est bien détaillé. Mmh. Et merci à Serge et merci à tous les fidèles héritiers de RFI et que Dieu protège notre pays, le Tchad.
Eh bien, merci de nous avoir appelé depuis la capitale du Tchad, N'Djamena. Bonne journée à vous. Nous poursuivons avec Hassan. Hassan, bonjour.
Oui, bonjour, Romain.
Hassan, depuis Dakar, la capitale du Sénégal, nous vous écoutons.
En Israël, le nombre de cas de la Covid repart à la hausse. Face à ce phénomène, les personnes les plus vulnérables vont recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer. Romain, Israël envisage-t-il d'utiliser d'autres vaccins contre les variants et comment peut-on mesurer leur efficacité?
Alors effectivement, vous citez un pays qui était lui-même cité en exemple de la vaccination contre le Covid-19, Israël, et qui se voit aujourd'hui, Israël, confronté à une augmentation des cas. 1000 nouvelles contaminations par jour, c'est la moyenne actuelle. Quelle solution donc face à cela? Simon Rosé, Monsieur Covid à RFI, en ligne avec nous. Simon, troisième
bonjour.
Bonjour Simon, troisième dose de Pfizer, nouveau vaccin, voilà, quelle solution?
Déjà, donc, comme le disait Hassan, la troisième dose de Pfizer, elle concerne vraiment les personnes qui sont immunodéprimées, hein, c'est-à-dire dont le système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire puisque les vaccins dont on dispose aujourd'hui, ça a été confirmé par une nouvelle étude qui a été publiée cette nuit dans le New England Journal of Medicine, reste efficace, hein, le Pfizer contre le variant Delta, donc qui inquiète tout le monde en ce moment, conserve 88% d'efficacité pour prévenir les formes graves. Donc, on parle toujours de prévenir les formes graves, c'est-à-dire pour éviter les hospitalisations et les décès. Ça veut dire qu'il peut y avoir des cas, mais ça se traduira beaucoup moins en passage à l'hôpital derrière. Les nouveaux vaccins, on a déjà ceux dont on dispose. On va voir ceux qui vont arriver dans l'avenir. Il y a Novavax qui est une solution de vaccin avec des protéines recombinantes. On connaît un peu mieux. C'est comme le vaccin contre la coqueluche, par exemple, utilise cette solution. Vient de faire sa demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne du médicament. Donc on devrait avoir la réponse d'ici un ou deux mois. Il y a Sanofi, le vaccin de Sanofi, qui également utilise cette technique des protéines recombinantes, qui lui vient d'entrer en examen par l'Agence européenne du médicament. Donc là, on attend les résultats pour la fin de l'année. Pour le coup, ils sont au tout début du processus. Et il y a Pfizer qui développe un vaccin, une variante spécifique de son vaccin contre le Delta. L'essai clinique, là, il est prévu à la rentrée, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. On sera plutôt sur la fin de l'année également ou début d'année prochaine.
Voilà, donc les pistes de vaccination pour les prochains mois. Ça nous emmène à votre deuxième question, Hassan, à Simon Rosé. On vous écoute.
Oui. Plus généralement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui attend la population mondiale en termes de vaccins pour les prochains mois.
Alors, les perspectives sur la vaccination contre le Covid-19, Simon?
Comme je le disais, il y a les nouveaux vaccins qui vont arriver dans les 6-12 mois qui viennent. Après, voilà, les données le confirment. Sur papier, on a vraiment tout en matière de vaccin, on a toutes les armes qu'il faut aujourd'hui pour faire face même au variant Delta, même s'il y a une petite perte d'efficacité. L'efficacité reste toujours très bonne. La grande question, évidemment, c'est la distribution et l'égalité dans l'accès au vaccin. Au rythme actuel, si on compte, il faudrait attendre 2023 pour que le vaccin soit disponible pour tout le monde sur toute la planète. Clairement, on peut pas attendre ça, puisqu'un virus qui circule, c'est un virus qui peut muter. Et donc, il faudrait arriver à résoudre ce problème. Pour ça, il y a le dispositif COVAX, dont on a beaucoup parlé sur RFI, de distribution de vaccins, qui est un peu au point mort en ce moment, parce que il y a deux façons de mettre des vaccins à disposition dans le dispositif. C'est soit des États qui achètent des vaccins, les donnent à COVAX, qui les distribue ensuite aux pays qui en font la demande, ou soit les producteurs de vaccins eux-mêmes, qui les donnent à COVAX. On voit que, par exemple, que Pfizer est sur une ligne qui est de proposer une troisième dose à tout le monde. Ils ont fait des demandes en ce sens auprès des autorités sanitaires américaines et européennes. S'ils commencent à distribuer des troisièmes doses aux pays riches, faut pas se mentir, forcément, il y en aura moins pour tout le monde. Donc, la grande question qui va se poser dans les prochains mois, c'est comment rendre ce vaccin disponible pour tout le monde, sous risque de voir l'épidémie partir et flamber dans plusieurs régions du monde et, du coup, émergence de variants qui peuvent remettre tout en cause, quoi. Et sans parler du coût humain, bien sûr.
Bien sûr, et cette question de la troisième dose avec Pfizer, on peut la retrouver aussi pour les autres vaccins?
Alors pour l'instant, il n'y a que Pfizer qui a fait cette demande par voie de presse. Ils avaient, que je ne me trompe pas, c'était il y a deux ou trois semaines, ils avaient fait un communiqué de presse où ils annonçaient qu'ils faisaient cette demande officielle auprès de la FDA américaine et de l'EMA l'Agence européenne du médicament. Très vite, les deux agences sanitaires les ont un peu renvoyées dans les cordes en disant que c'était pas du tout d'actualité, il n'y avait pas de données qui justifiaient cette troisième dose hors personnes plus fragiles, immunodéprimées. À ma connaissance, Moderna ne l'a pas fait. Ni AstraZeneca, ni Janssen, qui sont les deux autres vaccins principalement distribués dans le monde aujourd'hui. Et vu que Sputnik, le vaccin russe, les vaccins chinois également ne sont pas autorisés en Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas eu de demandes en ce sens du coup qui ont été faites.
Eh bien, merci Simon Rosé et merci Hassan depuis Dakar. Très bonne journée à vous dans la capitale sénégalaise. Nous rejoignons le standard avec un appel à présent depuis Matadi en RDC. Rousseau, bonjour.
Bonjour Romain et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, allez-y, vous posez votre question, Rousseau.
Oui, après un mois de pause, des milliers de Colombiens sont descendus de nouveau dans la rue. Pourquoi les manifestants redescendent-ils aujourd'hui dans la rue et quelles nouvelles réflexions ont émergé?
Alors effectivement, vous faites référence à un mouvement qui semble reprendre en Colombie cette semaine, qui avait été ce mouvement marqué précédemment par la répression des autorités. 60 personnes avaient été tuées lors des manifestations entre le 28 avril et le 15 juin en Colombie. Le 15 juin, où donc ce mouvement a marqué une pause, vous faites bien de le signaler, pendant un peu plus d'un mois cette pause. Pour répondre à votre question, Rousseau, on est en ligne avec Angélica Montes, enseignante, philosophe franco-colombienne et directrice du Grécol ALC, qui est un groupe de réflexion. Madame Montes, pourquoi la reprise des manifestations cette semaine en Colombie après cette pause d'un mois?
Oui, merci beaucoup pour ces invitations à répondre à ces questions importantes pour nous en tant que Colombiens. En fait, il est tout à fait inexact de dire que ça s'arrêtait parce que depuis le 28 avril, il y a des journées de manifestations au quotidien dans des points de rassemblement. La raison pour laquelle ça reprend, c'est parce que malgré les tentatives de négociation des différents jeunes qui forment la première file, c'est-à-dire les gens qui combattent, on va dire, en face, à la police des anti-émeutes, et malgré toutes ces tentatives de négociation avec les gouvernements locaux et nationaux, ça a échoué. Les gouvernements colombiens répondent toujours avec la répression et avec la criminalisation de la proteste. Face à cette situation, il y a beaucoup de solidarité venant de tous partis, y compris des salariés, des enseignants universitaires et d'autres secteurs qui se solidarisent et font face à cette situation de répression de l'État en indiquant que les mouvements qui ont initié le 28 avril, ce n'est pas un mouvement contre un gouvernement en spécial, c'est contre un système politique corrompu. Et voilà, donc c'est la continuation quelque part d'un mouvement qui est démarré le 28 avril.
Oui, et les revendications sont restent les mêmes. Plus de justice sociale, c'est ça, réforme de la police et un État plus solidaire, parce qu'il y a effectivement une grave crise qui touche la Colombie. Il y a presque un habitant sur deux en Colombie, c'est ça, qui est sous le seuil de pauvreté aujourd'hui.
En effet, plus de 42% de la population est sous le seuil de pauvreté. On compte environ 7 à 8 millions de personnes qui sont dans une extrême pauvreté. Cette situation frappe essentiellement aux jeunes et aux femmes. C'est pour ça que la représentation de la jeunesse dans ces manifestations est très importante. Beaucoup de jeunes sans travail, d'autres avec des salaires d'émissaire, avec un bac plus 8. Et tout ça fait que la rage gronde dans la jeunesse. En plus, il faut vous dire que la jeunesse colombienne, comme les Colombiens en général, sont aujourd'hui davantage beaucoup plus conscients de leurs droits et de l'existence d'une constitution qui les protège. Donc, ils veulent faire valoir les lois, faire valoir la constitution et, contrairement à ce que fait le gouvernement, en criminalisant ces protestes et en traitant des vandales les gens qui protestent.
Les protestataires, oui.
Les protestataires, pardon. C'est au contraire des gens qui rejettent tout changement politique par les armes. Donc, ce n'est pas du tout des gens qui rêvent de devenir Che Guevara. Bien au contraire. Ils souhaitent rendre la démocratie colombienne une réalité.
Ok. Je vais me faire l'écho rapidement, votre réponse. Je vais me faire l'écho de la deuxième question de Rousseau qui demandait, en fait, après l'échec des négociations avec le gouvernement, est-ce que le Parlement peut faire quelque chose pour répondre aux revendications rapidement?
Pas vraiment, parce qu'on est dans un contexte électoral. L'année prochaine, il y aura des élections à l'Assemblée nationale et aux présidences. Et ce sujet devient un sujet politicien. Dans ce contexte, l'Assemblée nationale, qui est acquise, on va dire, au pouvoir d'Ivan Duque, joue sur cette main forte pour justement garantir l'adhésion de vote dans les prochaines élections. Donc, vous voyez, c'est fini, la négociation, c'est fini. C'est très compliqué dans ce moment.
Eh bien, merci, Angelica Montes. Bonne journée à vous. Rousseau, vous êtes satisfait de la réponse ?
Oui, merci beaucoup, merci.
Passez une très bonne journée à Matadi en RDC. C'est déjà l'heure de notre dernier sujet dans cette première partie d'appel sur l'actualité. J'accueille à présent Edith Divin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Permettez-moi de dire sincères condoléances à tous les peuples congolais qui plairent à Laurent Mossengo, le cardinal émérite de Kinshasa, qui était mis à terre hier.
Et on en a parlé hier dans la partie débat d'appel sur l'actualité. Merci pour votre message. Vous êtes également en RDC, Edith Divin, mais à Kinshasa, la capitale, nous vous écoutons.
Évidemment, Romain. J'ai appris que la compagnie automobile Toyota, l'un des plus grands sponsors des JO de Tokyo, a retiré sa compagnie publicitaire télévisée. Je voudrais savoir pourquoi Toyota a décidé de se retirer. Est-ce que d'autres entreprises et sponsors envisagent un retrait?
Alors, évidemment, ce sera l'événement de demain, vendredi, hein, l'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo, des JO pas comme les autres. Avec la pandémie de Covid-19, bien évidemment. On va répondre à votre question avec Laura Salabert du service économie de RFI qui nous a rejoint à présent en studio. Laura, retrait du sponsor Toyota et peut-être retrait à venir d'autres sponsors?
Oui, alors déjà, il faut un petit peu nuancer. Hein. Le groupe Toyota ne s'est pas vraiment retiré des JO puisqu'il n'a pas du tout prévu de retirer ses financements. Et puis, il est toujours prévu que l'entreprise fournisse l'intégralité des véhicules pendant la compétition. Ils ont même conçu des navettes autonomes qui serviront à se déplacer au sein du village olympique. Et tout ça n'est pas négligeable d'un point de vue financier. Cependant, il est vrai, et vous avez raison, Edith Divin, lundi, les dirigeants ont annoncé qu'ils n'assisteraient pas à la cérémonie d'ouverture. Une des raisons qui a été avancée par Toyota, c'est l'absence totale de spectateurs durant la compétition. C'est vrai que cette mesure risque d'impacter très fortement ce qu'ils appellent leur activation marketing, c'est-à-dire dans leur langage le nombre de clients qu'ils peuvent espérer toucher ou fidéliser durant l'événement. Mais au-delà de cette absence de spectateurs, le sponsor redoute surtout le boycott des Japonais si Toyota s'associe à cet événement extrêmement impopulaire. Jules Boykoff, un professeur spécialisé dans le sport et dans la politique, interrogé par l'AFP, a même parlé d'impact toxique sur l'image des marques. Donc Toyota a pris la décision de ne pas diffuser sa campagne de publicité en lien avec cet événement planétaire. Et puis, c'est finalement aujourd'hui la quasi-totalité des sponsors japonais, Panasonic, Bridgestone ou encore Fujitsu, qui seront absents de la cérémonie d'ouverture demain. En revanche, aucune entreprise n'a pour l'instant pris la décision d'annuler sa campagne publicitaire, même si la plupart entendent mettre en avant leur partenariat avec les athlètes plutôt qu'avec les Jeux Olympiques. Le géant de l'électronique Panasonic a même récemment choisi Naomi Osaka, la célèbre joueuse de tennis japonaise, pour devenir l'ambassadrice principale de la marque. Preuve que tous les sponsors n'ont pas complètement lâché cet événement qui reste tout de même très attendu.
Alors Edith Divin avait une seconde question à propos de ce retrait de sponsor qui s'ajoute à d'autres mauvaises nouvelles pour ces JO, notamment le fait qu'il n'y aura pas de spectateurs. Comment est-ce qu'on peut mesurer les conséquences, Laura ?
Alors, en réalité, les décisions prises par les sponsors japonais ne vont pas vraiment bousculer les organisateurs d'IJO, du moins sur le plan financier. Déjà parce que les grands partenaires internationaux comme Airbnb ou Coca-Cola n'ont pas modifié leur stratégie. Eux ne sont pas menacés de retombées négatives, puisque les Japonais ne représentent qu'une part relativement limitée de leur chiffre d'affaires. Et puis même les sponsors, qui sont très dépendants du marché japonais, ont tous finalement respecté leurs engagements financiers. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. La conséquence directe pour le CIO, le Comité international olympique, elle se situe davantage sur le plan de la popularité des JO.
Eh bien, merci beaucoup Laura Salabert et merci à Edith Divin pour ces questions depuis Kinshasa, la capitale congolaise. Restez à l'écoute dans quelques instants le journal Afrique et puis la seconde partie d'appel sur l'actualité. Nous évoquerons le projet Pegasus, le projet d'espionnage.